le Midi Magazine. En effet, aujourd'hui, c'est notre invité et Madame Malika Sorel-Suter. Bonjour.
Bonjour.
Pour son livre Immigration-Intégration, le langage de vérité. Et non pas, me disait-elle à l'instant, de la vérité, avec un grand V, un langage de vérité, immigration-intégration. Malika Sorel est diplômée de l'école polytechnique d'Alger, ingénieure, et diplômée de troisième cycle de gestion à Sciences Po. Et elle fait partie du Haut Conseil, comment ça s'appelle?
Haut Conseil à l'intégration.
À l'intégration, hein, je voulais pas me tromper, j'ai eu une petite hésitation. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis d'abord, merci d'avoir écrit ce livre parce qu'on est en plein dans la réalité des problèmes qui agitent, hélas, un peu trop notre pays et quelques autres. Alors, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est être français ? L'identité française, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a certains ont vilipendé, condamné le débat de l'UMP sur cette question ?
Être français, c'est être reconnu par les Français comme étant français, comme étant un semblable, comme étant une personne qui porte la même identité, qui porte les mêmes traits caractéristiques, qui possède la même mentalité, le même regard sur la place de l'être humain au sein de la société, et puis un même regard sur le monde. Bien entendu, lorsque je dis ça, ça n'exclut pas du tout que l'on puisse, entre Français, avoir quelques différences. Mais nous partageons le même socle de principes et de valeurs, et c'est ce qui fait de nous un même corps politique. Pourquoi est-ce que le débat a été vilipendé? Je pense que nous sommes aujourd'hui, comme l'a très bien écrit Marcel Gauchet, le philosophe Marcel Gauchet, dans une crise morale dans nos sociétés. Ça inclut, lorsque je parle, les autres sociétés européennes, car tous les peuples européens sont soumis aujourd'hui, sont confrontés au même type de difficultés. Marcel Gauchet dit que notre société, la société française, n'a jamais connu dans son histoire, dans toute son histoire, une crise morale aussi importante. C'est pour cette raison aussi que j'ai souhaité écrire ce livre, pour dire la vérité sur la réalité de ce qu'est le peuple français, ce qu'il souhaite continuer d'être, le fait qu'il ne vient pas de nulle part, qu'il est le produit d'une histoire culturelle et politique, qu'il possède des racines et qu'on ne saurait déraciner un arbre. Et cette injustice qui est faite au peuple français et qui me bouleverse profondément m'a poussée à écrire pour, en quelque sorte, dire un certain nombre de choses, parce qu'il y a beaucoup de confusion, nous en parlerons probablement dans ce sujet de l'intégration, mais également pour dire aux Français qu'en réalité la France n'avait pas fauté et qu'il fallait qu'ils retrouvent le courage et aussi la fierté du contenu de leur identité.
Alors, vous venez de me dire, être français, c'est être reconnu par les autres comme français. Alors moi, je m'attendais à ce que vous me disiez, être français, c'est d'abord, à l'intérieur de soi-même, se sentir français. Non, vous me dites, c'est de l'extérieur que ça vient.
Vous avez parfaitement raison. J'ai choisi de commencer par dire ce que j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce sujet de l'intégration, que je définis comme étant un processus qui conduit à l'assimilation lorsqu'il réussit. Et l'assimilation signifie que de l'extérieur, vous ne pouvez pas différencier, dissocier un élément et les parties intégrantes d'un tout. Et j'explique très longuement dans l'ensemble de mes écrits que ce processus d'intégration se joue, contrairement à ce qui est dit aux Français depuis une quarantaine d'années, entièrement sur le registre moral et affectif. J'ai moi-même posé, lors de ce débat conduit par l'UMP, la question à des enfants, en leur disant pour vous, qu'est-ce qu'être français ? Des enfants d'une dizaine d'années, ils ont répondu vraiment spontanément, ensemble, c'est être français dans son cœur et dans sa tête. Et je trouve que c'est une définition magnifique.
Je vais vous citer, vous venez d'y faire allusion, vous dites il y a tout un processus qui va à l'encontre de tout cela. Je vous cite dans votre introduction. « Nombreux, écrivez-vous, sont les intellectuels, les enseignants, les citoyens de toutes origines sociales, de toute sensibilité politique et aussi les élus de la République qui tirent depuis fort longtemps le signal d'alarme. Mais depuis 30 ans, les dirigeants n'écoutent plus qu'une seule voix, celle des anti-républicains. Ces derniers, redoutables stratèges, ont parfaitement compris que pour détruire l'idéal français et faire disparaître l'âme de la France, il leur fallait commencer par mettre la République à genoux. Ils ont remporté la première manche de leur funeste entreprise, puisqu'ils ont réussi à jeter l'opprobre, puis à les faire remettre en cause sur chacun des principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Leur croisade contre la République est ingénieuse et leur étendard porte un seul slogan, la République a failli. » Alors, quand j'ai lu cela, j'ai été un peu stupéfait parce que je me suis dit, voyons, est-ce que je suis aveugle ou sourd? Est-ce que vraiment, je ne sais pas, à l'Assemblée nationale, 90% des députés qui sont là, c'est-à-dire quelques centaines, s'ingénient à mettre la France à genoux, c'est ça que vous voulez dire? Nos dirigeants, vous dites.
Oui, tout à fait. Oui, mon livre, c'est un signal d'alerte en direction de nos élites, d'une partie de nos élites politiques, économiques, parce que je parle également de la question des flux migratoires et c'est directement lié à notre économie. Je parle de la responsabilité des médias, puisqu'ils contribuent à façonner...
Oui, on va parcourir tout ça, bien sûr.
Oui, je pense qu'il y a une partie de notre classe politique, pour un certain nombre de raisons, qui travaille contre la France aujourd'hui.
Mais vous voulez dire consciemment ou par maladresse ?
C'est par maladresse, par indifférence. C'est vraiment un cocktail détonnant fait d'ignorance, de refus de se plonger dans les profondeurs de ce sujet et de délaisser les politiques que j'appelle miroirs aux alouettes ou écume des vagues. Il y a également un côté cynique, parfois. C'est toute une palette. On ne retrouve pas nécessairement ces travers dans une même personne ou dans un même parti politique. Je voudrais dire également qu'aujourd'hui, une ligne de fracture existe et traverse l'ensemble des partis politiques français sur cette question, parce que beaucoup de choses ont été dites aux Français. Il y a eu beaucoup de mensonges, par facilité aussi. C'est beaucoup plus facile de dire c'est juste un problème économique, on va donner de l'argent et tout va se résoudre. C'est beaucoup plus facile de dire regardez, l'intégration des migrants intra-européens s'est faite dans le temps, donc ça finira par se faire. C'est beaucoup plus compliqué de dire que la question est beaucoup plus lourde et qu'elle touche à l'identité et d'essayer de comprendre pourquoi et comment et ce qu'il faut mettre en place pour faire que ces enfants puissent s'insérer dans la société française.
Alors vous dites, vous allez m'expliquer ça, parce que c'est un terme qui est apparu il y a quelques décennies, et puis je croyais qu'il s'était perdu dans les sables, la pensée unique. Alors vous dites, autour de moi, on ne parlait plus de pensée unique, je me dis, ah tout à coup ça réapparaît, et vous dites, la pensée unique a étouffé la liberté. Expliquez-moi ça.
Oui, depuis plusieurs décennies, les Français le vivent vraiment et le ressentent au quotidien. On leur dit comment ils doivent penser. On leur intime l'ordre de taire un certain nombre de vérités, de leur taire également ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes depuis un certain nombre d'années, à savoir que l'intégration des migrants qui proviennent d'une civilisation qui n'est pas la leur est compliquée et complexe et qu'elle ne va pas nécessairement aboutir pour tous, cette intégration. Que c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on nous dit. Et malgré cela, il y a cette pensée unique qui est propagé par le monde politique, pour un certain nombre de raisons, par le monde associatif. Il y a une omerta sur un certain nombre de sujets. On ne veut pas parler de l'échec scolaire de ses enfants. Je veux dire, on en parle en disant ils échouent, mais on veut toujours dire que c'est simplement pour des raisons socio-économiques. On ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements également dans la famille et que la culture qui leur est transmise à la maison ne les aide pas nécessairement à réussir dans l'école de la République française. Et puis, la même chose se produit d'ailleurs en Allemagne et même en Suède. Et cette pensée unique nous dicte au quotidien ce dont nous devons parler. On ment sur la réalité de la participation à la délinquance des enfants issus de l'immigration. On érige les Français en racistes potentiels et les personnes issues de l'immigration en victimes potentielles de ces Français. Et c'est ce que j'appelle la pensée unique, celle qui nous empêche de réfléchir, celle qui nous empêche d'exercer ce que Marc Bloch, le résistant et historien Marc Bloch, disait, la liberté de pensée et de jugement. Nous l'avons perdue. Et aujourd'hui, il convient de se la réapproprier parce que c'est fondamental pour une démocratie.
Alors, vous dites d'entrée de jeu, en fait, on a adapté la société française aux migrants au lieu de faire l'inverse, au lieu d'adapter les migrants à la société française. Et du coup, on les a laissés se fourvoyer, ces migrants, dans le non-respect de ce qu'on appelle les fondamentaux. Hein. Alors, c'est bizarre quand même ça. On a changé notre société. On a voulu changer notre société pour faire plaisir aux migrants. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, encore à l'heure où nous parlons, nous tentons, c'est impersonnel, c'est indéfini, parce que nous, je ne m'inclurai jamais dans cette tentative de destruction de l'âme de la France, puisque la culture de la France, c'est l'âme de la civilisation. On tente, oui, de modifier en profondeur le fonctionnement de la société française en expliquant que la mondialisation accroît les flux migratoires et que nous sommes sommés d'accepter tout ce qui va avec et ce que nous vivons dans l'esprit de ces personnes qui souhaitent la modification de la société française, son fonctionnement, va avec. C'est un aveu en réalité d'impuissance du politique qu'il maquille. En disant que ce n'est pas nous, c'est la mondialisation qui conduit à un rythme effréné, un certain nombre de modifications en profondeur des sociétés, et nous ne pouvons que l'accepter et faire avec. Et donc je dénonce cette impuissance parce que pour moi le politique, sa raison d'être, je parle du politique avec un grand P, celui d'Anna Arendt, sa raison d'être, c'est justement de guider le peuple vers des lendemains meilleurs, et certainement pas de dire au peuple vous avez plusieurs milliers d'années d'histoire et nous allons vous faire oublier en quelque sorte cette histoire, parce qu'il faut aujourd'hui s'accommoder. Il faut changer notre regard, il faut changer nos habitudes.